Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les nouvelles du monde. On est sur les dernières éditions avant les vacances d'été. Et puisqu'il fait tellement chaud pour ne pas travailler normalement, mais qu'on bosse quand même, eh ben on va beaucoup parler dans cette édition, bien évidemment, des chaleurs, de la canicule, et puis aussi de ce qu'on en dit, de ce qu'on en fait, etc. au niveau mondial. Mardi, il n'y avait pas de nouvelles du monde, car nous étions en journée spéciale Interclub avec nos petits camarades du collège qui sont venus faire leurs émissions en direct. Si vous les avez ratées, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les podcasts de la radio à l'onglet hors studio ou atelier, je crois que ça s'appelle atelier. Alors on commence par un petit tour météo, hein. Pour une fois on est vraiment dans le thème de l'actualité, hein, avec un bilan exceptionnel à ce jour. Depuis le début de cet épisode de canicule qui est daté au 21 juin, on a compté déjà 339 records absolus et 860 records mensuels. Ça c'est des chiffres que j'ai récupérés ce matin, donc qui sont plutôt sur la journée de mercredi. En tout cas entre lundi et mardi, la France vivait déjà son après-midi la plus chaude et aussi sa nuit la plus chaude puis la journée la plus chaude de l'histoire de tous les relevés fiables. D'après un chiffre provisoire donc de 17h hier à Météo France, il faisait 29,8 degrés Celsius en moyenne dans l'Hexagone mardi. La chaleur franchissait un nouveau cap hier avec un indicateur thermique national de 30,02 degrés, ce qui est un niveau inédit en France depuis le début des relevés fiables qui est daté, donc je vous le disais, à 1947. Quand on parle de canicule, vous le savez, c'est surtout aussi les enchaînements et le fait que la température la nuit ne redescende pas. C'est pas forcément que les maximales de la journée. En tout cas, les écarts avec les températures habituelles pour la saison, donc pour le mois de juin, est très très important dans de nombreuses régions de France. Et c'est pas ici, dans le sud et le sud-est, que c'est le pire, hein. Les normales sont dépassées environ de 10 degrés Celsius pour ce qui est du national. Mais on était à plus 18 pour Nantes, plus 16 pour Bordeaux. En tout cas, toute la façade ouest. Et donc, un écart moyen, je vous le disais, il a été carrément chiffré à 11 degrés Celsius par rapport à la moyenne. Et localement, donc jusqu'à quasiment 20 degrés au-dessus des normales. La France était donc lundi le pays au climat le plus anormal du globe. Car oui, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui s'improvisent climatologues sur Internet, c'est pas parce qu'il fait chaud ici mais froid à côté que ça s'annule, hein. Évidemment, l'intérêt, c'est de regarder la moyenne de la planète, et là-dessus, il n'y a aucun doute, ça se réchauffe, mais évidemment, pas de plus 10 degrés, hein, c'est pas aussi spectaculaire. La canicule, en tout cas, concernait tout le pays français, avec des alertes émises par Météo France, hein, 72 départements en vigilance rouge pour aujourd'hui, 17 en orange. Si vous regardez les cartes, hein, je vous le disais, vous verrez que nous, on est plutôt dans les couleurs jaune ou orange. Le rouge, c'est vraiment l'est et le nord. Donc, en plus des pays, on n'est pas forcément, enfin des coins, on n'est pas habitué à prendre autant de chaleur dans la figure, et aussi où les environnements ne sont pas adaptés, parce que là on parle toujours des humains avec les problèmes de clim ou pas, mais sur les cultures et la question aussi du manque d'eau, ça va faire des gros dégâts qui vont continuer à se payer même s'il se met à faire un peu plus frais. Si on regarde un petit peu au niveau planétaire, au niveau mondial, donc la France, je vous le disais, est bien au-dessus de tout le monde, hein. Environ, il y en a qui se sont amusés à calculer, donc pour la journée du mardi, moins de 1% de la planète, en tout cas des terres habitées sur la planète, connaissaient des températures supérieures à celles des régions les plus chaudes de France. Ça, c'est le Washington Post qui a regardé ça. Par exemple, c'était seulement à certains endroits du Sahara, au Moyen-Orient et dans le sud-ouest désertique des États-Unis qu'il faisait plus chaud qu'en France. Ce qui met donc en évidence le caractère extrême de la vague de chaleur, et puis là, surtout son caractère aussi très localisé sur la France. Il y a des explications météo, si ça vous intéresse, allez voir. Il y a plein de gens qui expliquent ça très bien, avec des remontées d'air chaud qui viennent notamment du Maroc et des pays d'Afrique du Nord. Et il y a aussi des explications sur pourquoi il ne fait pas aussi chaud, forcément, à côté. Pour ce qui est des dégâts, bah, les autorités et médias locaux français ont fait état d'au moins 45 morts liés aux températures élevées. Et 40 de ces 45 morts sont dus à des noyades. Donc, on rappelle notamment aux jeunes qui vont se baigner un peu partout pour s'amuser, qui sautent, etc., bah, qu'il faut faire très attention. On peut se noyer dans des cours d'eau qui ne sont pas faits pour la noyade, pour la baignade normalement. On peut aussi risquer l'hydrocution. Donc voilà, c'est important quand même de rappeler tout ça. Ce jeudi, en tout cas, ça devrait marquer le dernier pic national pour cet épisode, avec peut-être une baisse progressive à partir de ce samedi. On reste quand même dans des grosses températures, hein. Là, on reste encore sur des 38 à 41 degrés l'après-midi, avec des pointes supérieures et des nuits surtout qui restent très éprouvantes, notamment en ville, avec 23 degrés à 28 degrés Celsius au plus bas, qui empêche notamment l'organisme de bien se reposer, ce qui fait qu'on est un peu éclaté le matin. L'air le plus chaud normalement se décale vers l'est du pays là sur cette fin de semaine, tandis qu'une dégradation orageuse localement marquée ce soir va amener de l'air relativement moins chaud par l'ouest. D'ailleurs, vous avez peut-être pu profiter aussi des orages qui ont éclaté un petit peu hier soir. Il n'a pas beaucoup plu, mais ça a quand même rafraîchi un petit peu tout ça. Pour ce qui est de la semaine prochaine, les températures devraient être chaudes, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. On devrait être seulement 2 ou 3 degrés au-dessus des normales de saison, précisait le directeur des relations institutionnelles chez Météo France, qui s'appelle Benoît Thomé. A noter que, bah, du coup, forcément, les météorologues sont très consultés en ce moment. On leur demande alors le reste de l'été, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, pour les semaines prochaines, j'en ai vu parler de modèles qui sont pas très encourageants, hein, qui annoncent encore certainement un anticyclone. Ça veut dire un maintien de ce type de situation et possiblement encore des semaines très très chaudes pour le début du mois de juillet. A priori, on n'est pas tout de suite sorti de la fournaise. Et cette fournaise se fait certainement aussi ressentir pour de nombreux travailleurs, hein, qui travaillent notamment dans des espaces fermés. Et les conditions deviennent parfois impossibles et incompatibles avec le boulot. C'est ce qui a provoqué des grèves, un début de grève dans la production automobile, notamment chez le géant Stellantis. Est-ce que ce mouvement en annonce beaucoup d'autres par la suite? C'est ce que se demande Libération. Ce mardi 23 juin, en tout cas, c'était le syndicat CGT de l'usine Stellantis de Mulhouse qui déposait un préavis de grève qui court jusqu'à dimanche qui arrive là pour dénoncer les conditions de travail des salariés. Ceux-ci subissent en effet les fortes chaleurs. Le syndicat appelle dans son communiqué à cesser le travail à 11h20 au lieu des 13h06 pour les équipes du matin et à 18h20 au lieu de 20h32 pour celles de l'après-midi. Les salariés qui souhaitent débrayer à d'autres horaires ou sur une journée complète sont libres de le faire. Selon la direction du groupe Stellantis, seulement un seul salarié avait débrayé le mardi matin sur les 1700 qui travaillaient encore en horaire du matin. Ils font les 3-8, je pense, dans ces usines. En tout cas, cet appel à débrayer, les salariés l'avaient demandé. Ils avaient dit que les pauses chaleur que leur donnait la direction n'étaient pas assez et qu'en fin de journée, ils étaient complètement morts. Ce sont les mots du délégué syndical Salah Keltoumi, donc CGT. Dans cette usine qui est située à Sosseim, dans le Haut-Rhin, où près de 4500 personnes sont employées, les températures dans certains ateliers frôlaient les 38-40 degrés Celsius. Donc le syndicaliste explique que vous êtes là à monter des pièces, mais les gens arrivent déjà épuisés parce qu'ils n'arrivent pas à dormir bien la nuit. C'est donc très dangereux, et pour eux, et pour les collègues. La CGT, qui n'a pas été rejointe par d'autres syndicats de l'usine dans cet appel à la grève d'ailleurs, réclame un ralentissement des cadences, des pauses plus fréquentes, ou des investissements dans des équipements qui protègent de la chaleur. Pour l'instant, dans le droit, les salariés ont droit à une pause le matin, deux l'après-midi et une la nuit. C'est ce qu'expliquent les syndicalistes de l'usine. Ils ont droit à une bouteille d'eau par jour. Selon la direction, toujours une procédure chaleur est prévue à Mulhouse, ainsi que dans l'ensemble des autres sites du groupe Stellantis. En fonction des températures, seront prévues des pauses supplémentaires, la distribution de bouteilles d'eau et l'aménagement des horaires, le cas échéant, quand celui-ci est possible. Quant à la climatisation de ces espaces, elle n'est pas généralisée. La faute à la taille des ateliers. Seulement, les espaces de pause sont pour l'heure climatisés. On observe aussi et on voit fleurir de nombreuses grèves dans des écoles, maternelles, primaires, des locaux publics se multiplient, des grèves qui se multiplient sur le territoire, que ça soit pour préserver les publics qui ont accès à ces espaces ou pour les travailleurs. Et cela se fait quand justement les pouvoirs publics ne prennent pas les devants. Les syndicats enseignants, par exemple, en ce moment, rappellent, notamment sur les réseaux sociaux, les lois qui encadrent le droit de retrait des travailleurs. Pour ce qui était de la journée d'aujourd'hui, il y avait environ 3500 écoles fermées et 10 000 qui bénéficiaient d'aménagement des horaires contre la chaleur. Par exemple, quitter les salles de classe, qui allaient se mettre dans une salle des fêtes qui, elle, est climatisée. On va regarder un petit peu deux, trois infos sur la politique aussi, puisque ça ça alimente le débat. Deux, trois petits exemples, notamment une déclaration assez difficile à supporter en plein milieu de cette canicule historique. C'est le patron du principal lobby européen des data centers. Il s'appelle Lex Kors. Et justement, il est venu donner son avis à l'Union européenne. Et il lui a dit qu'il allait falloir choisir entre l'intelligence artificielle ou les objectifs climatiques. Ses propos ont été relayés le 17 juin dernier. Il explique tout simplement que si l'Europe ne veut pas céder sa souveraineté technologique à la Chine, donc dans le cas des IA, elle doit mettre en pause ses ambitions climatiques et notamment installer de nouvelles centrales à gaz. Et oui, pour donner toute l'énergie nécessaire à ces data centers. Aux yeux donc de ce Lex Kors, dont le lobby défend les intérêts des géants de la tech, comme par exemple Microsoft, Google ou Amazon, le développement des énergies renouvelables et des centrales nucléaires de nouvelle génération n'avance pas assez vite, et cela ne pourra pas assurer le triplement de capacité des data centers que souhaite faire l'Union européenne d'ici 2032. Et ça, ce sont les souhaits de la Commission européenne. L'idée que les projets déjà trop lents de l'UE en matière de climat devraient être encore sacrifiés en brûlant davantage de gaz au nom des profits des géants de la tech est absurde, rétorqué dans le média Politico un porte-parole de Greenpeace Europe. Et le journal Reporter, qui ramène ses propos, qui s'est engagé de son côté pour un journalisme sans IA générative, démontre avec des infographies à quel point l'intelligence artificielle, est délétère pour la lutte justement contre l'urgence climatique. Et pendant ce temps, tous les représentants, une grande partie des représentants de l'extrême droite française se donnaient rendez-vous. C'était en ce moment-là, du 23 au 25 juin à Londres, 3 jours pour assister à l'Alliance for Responsible Citizenship, donc ARC, l'Alliance pour une citoyenneté responsable. C'est le nom de ce sommet international des élites anti-woke et anti-climat, ainsi qu'on peut les qualifier. C'est l'Observatoire des multinationales qui a été un petit peu épluché justement la liste des invités. Depuis 2023, c'est récent, cette Alliance for Responsible Citizenship, cet événement qui est sponsorisé par de grandes fortunes pétrolières ainsi que des industries pharmaceutiques, réunit la crème, la fine fleur des groupes de pression, des lobbies, qu'ils soient états-uniens, eux, ou européens, et également des personnalités climato-sceptiques internationales. L'objectif de l'événement est bien nouer des liens entre les conservateurs de tous les pays. L'Observatoire des multinationales a pu consulter donc la liste des Françaises et Français présents cette année à Londres. On retrouve Marion Maréchal, l'eurodéputé anciennement Rassemblement National, les collaborateurs parlementaires des députés du RN, Julien Odoul, Jérôme Verny, Nicolas Beille, des jeunes conseillers municipaux de droite, plusieurs membres de SOS Chrétien d'Orient, des représentants du groupe de réflexion réactionnaire Institut pour la Justice ou encore Arnaud Rérol, qui est le directeur du projet Périclès, vous savez, ce groupe appartenant au milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin. Tous ces participants ont payé 1 730 euros, c'est le coût du billet d'entrée, pour pouvoir assister à des conférences où on écoutera par exemple Kevin Roberts, c'est le président de la Heritage Foundation, un groupe d'influence qui souffle et qui a soufflé son programme politique à Donald Trump, rien que ça. Seront présents aussi Rod Dreher, lui est mentor du vice-président états-unien Jed Evans, ou encore Sarah B. Rogers, elle est sous-secrétaire d'État des États-Unis à la diplomatie publique et aux affaires publiques, et c'est le sous-secrétariat qui finance des groupes de réflexion réactionnaire pour professer le Trumpisme en Europe. L'année dernière, au même événement, Paul Marshall, qui est un des cofondateurs de ces 3 jours de rencontre, pourfendait dans son discours les politiques climatiques. Il dénonce que les pays du monde entier étaient contaminés par un zèle idéologique qui allait sacrifier la prospérité économique. Évidemment, si vous n'avez pas compris pourquoi l'extrême droite était contre justement les discours écologiques, c'est parce que ceux-ci fortement remettent en cause la croissance et donc les modèles de prospérité économique actuels. Cette année, la première conférence de l'ARC s'était ouverte d'ailleurs alors qu'il faisait 37 degrés à Londres. Rappelle quand même l'Observatoire des multinationales.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
On continue le petit train des horreurs, on revient en France. On apprend que les agents de plusieurs établissements publics, scientifiques notamment, dénonçaient ce 23 juin les réformes de leur statut et de leur mission. Ils les jugent porteuses d'un danger de mort pour leurs établissements, ces réformes. Ils alertent notamment sur des suppressions de postes, des coupes budgétaires et la précarisation croissante de la fonction publique. Nos agences et établissements subissent tous les mêmes choses. La casse des statuts, la suppression d'emplois, l'augmentation du nombre de contractuels, des fusions à répétition, l'érosion des subventions, des coupes budgétaires. Ça, c'est ce qu'énumérait Lise Soulier, qui est représentante CGT à l'IGN. C'est l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. Et le point presse était organisé donc en visio. Une manifestation était normalement prévue à 13h30 devant l'Assemblée nationale, mais ils l'ont reportée au 2 juillet aux Invalides à Paris, à cause justement de la canicule. En tout cas, le point presse a quand même été mené, et voici ce qu'elle a dit également. « Les attaques à répétition détériorent nos conditions de travail, précarisent nos effectifs et nous empêchent d'accomplir nos missions, en particulier des missions de service public. » Elle a dit regretter que le gouvernement serve, selon elle, les intérêts du privé et détruise pièce par pièce les services publics en s'attaquant aux agences de l'État. Plusieurs représentants, justement, de ces différents organismes ou établissements publics étaient rassemblés sous un collectif qui s'appelle Agences en lutte. Ils ont pu prendre la parole lors de ce point presse. C'est pas mal d'organismes dont je vous parle souvent, et notamment par rapport à leur disparition, en tout cas leurs attaques. Le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, urbanisme et de l'environnement, qui va conseiller par exemple les collectivités sur comment mettre en place des politiques environnementales, je sais pas, planter des arbres, s'occuper des routes, etc. Était présent aussi l'ADEME, elle c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Santé publique France, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui fait un gros boulot, notamment sur la question des polluants. Tous ont fait état dans leurs agences de licenciements, de coupes de budget ou de mobilité forcée du fait d'un projet de rapprochement local, par exemple, de l'ADEME et des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Donc l'ADEME et l'ADREAL ont été rapprochés localement. Et cela fait qu'elle se retrouve à agir sous l'autorité du préfet de région. Et ça peut changer pas mal de choses selon les orientations politiques, justement, régionales. Toutes ces agences sanitaires ont été créées justement pour bien séparer l'évaluation de la gestion et permettre donc aux politiques ou aux décideurs de prendre des décisions de manière totalement éclairée. Aujourd'hui, remettre en cause les opérateurs publics, dont les agences sanitaires et environnementales, est un reniement de l'histoire, affirmait Olivier Catelinois, qui lui est type épidémiologiste pour Santé publique France. Pour Christophe Girard, enfin, de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, il y a urgence sociale, sanitaire pour les habitants, pour les territoires, mais également pour les personnels de nos agences, qui sont en grave difficulté et parfois en danger de mort.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
On arrive près de chez nous, gentiment, on est revenu dans le coin, puisque hier, il y a eu un incendie aux salles du Gardon, hein, avec les sapeurs-pompiers du Gard qui étaient engagés pour lutter contre un feu de forêt sur la commune des Selles du Gardon, un peu au-dessus de la Grand Combe. Une origine, visiblement, à cause des très nombreux éclairs qui ont frappé, justement, tout le piémont des Cévennes hier soir. L'incendie est terminé, en tout cas, 1,5 hectare sont partis en fumée. Le sinistre s'est développé dans une forte pente ascendante, hein, une zone difficilement accessible pour les camions et autres véhicules terrestres. Donc ce sont des Canadair qui ont dû notamment intervenir. 25 véhicules au total et près de 100 sapeurs-pompiers étaient présents. Il y a eu 4 Canadair et 1 Dash qui ont effectué des dizaines de largages, ce qui a permis de limiter la propagation du feu. Compte tenu des conditions météo et des difficultés d'accès, les opérations se sont poursuivies toute la nuit. Et au matin, les pompiers gardois faisaient savoir que le feu de forêt avait donc en tout parcouru 1,5 hectare et qu'il était toujours sous surveillance ce matin. On reste dans la question du feu et des incendies. On va parler d'un incinérateur sur la métropole de Montpellier. L'incinérateur CSR. Une quarantaine de signataires saisissent la préfète avec une tribune. C'est la concertation publique sur ce projet d'incinérateur CSR qui vient de s'achever et dans la contestation. Le projet CSR est porté par l'entreprise Urbaser. Tout un comité interassociatif s'est monté, hein, il s'appelle le comité de défense contre l'incinérateur 3M, et ce comité ne décolère pas. À savoir qu'aujourd'hui, une quarantaine de signataires ont adressé donc cette lettre recommandée à la préfète de l'Hérault, Chantal Mochet. Ils exigent l'organisation d'un débat public qui serait placé sous l'égide de la CNDP, la Commission nationale du débat public, et ils veulent surtout un moratoire immédiat sur le projet. Dans ces signataires sont présents et présentes des associations, mais aussi des collectifs de riverains ou des personnalités du monde scientifique et politique. À l'origine donc de cette mobilisation, on peut citer François Vasquez, qui est l'ancien vice-président de Montpellier Métropole, chargé de la collecte du tri et de la valorisation des déchets. Donc il était en poste justement pour gérer ces questions-là avant. Il était, lui, artisan de la politique zéro déchet, une politique qui a été votée à l'unanimité par le Conseil métropolitain en 2022. Mais il s'est opposé à ce projet donc, d'incinérateur CSR et donc a été écarté de sa délégation, ce qui fait que maintenant il se retrouve un peu à la tête de la fronde contre le projet. Et depuis, il n'a cessé d'alerter sur ce qu'il considère comme un virage à 180 degrés de la part de la métropole de Montpellier. Ce projet en question donc, d'incinérateur, il consiste en effet à transformer le site de l'usine Améthyste, qui s'est trouvé en plein dans le quartier Garot-Sud, Les Grisettes, et transformer donc cette usine en une unité capable de brûler 45 000 tonnes de combustible solide de récupération par an. Les promoteurs de ce projet l'appellent chaudière CSR. Ils vendent, j'imagine, la récupération de chaleur ensuite pour peut-être chauffer de l'eau. Mais les opposants, eux, préfèrent parler d'un incinérateur qui serait implanté, ils le rappellent, à 3600 mètres seulement de la place de la Comédie. 3 km donc à vol d'oiseau. Deux réunions publiques ont été organisées, les 11 mai et 11 juin dernier, par le fameux groupe Urbaser, hein, qui est délégataire de services publics désignés par la métropole dans le projet. Et ces réunions publiques n'ont pas fait baisser la température. Le comité dénonce en effet dans la lettre à la préfète des présentations qui ont été faites entachées d'inexactitudes et d'affirmations contestées, et le tout conduit dans un monologue marketing sans que le vice-président délégué aux déchets, qui s'appelle maintenant Pierre-Marie Carvajal, ne trouve un mot à redire au déroulé donc de l'entreprise. Selon le journal Hérault Tribune, François Vasquez, donc maintenant opposant au projet, dénonçait d'ailleurs dans cette première réunion un grand carnage. Il accuse la métropole d'avoir abandonné la fameuse stratégie zéro déchet qui a été votée quelques années plus tôt. Et il a notamment lancé aux représentants de Urbaser « Vous êtes payé à la tonne, votre intérêt n'est pas l'intérêt de la collectivité ». Et ce, il l'a fait sous les applaudissements de la salle. Les signataires de la lettre pointent aussi une contradiction de taille. Le même projet donc, d'incinérateur prétend avoir étudié puis écarté des solutions alternatives. C'est écrit quelques lignes dans le dossier de concertation. Or, justement, la délibération de mars 2022, votée là aussi à l'unanimité, constituait justement, selon les opposants, une alternative viable, que ce soit financièrement ou aussi sur le plan sanitaire. Dans cette lettre donc adressée à Chantal Mochet, elle revient aussi sur la question du débat public. En effet, celle-ci a fermé la porte à une saisine de la CNDP. C'était France Nature Environnement qui demandait l'intervention de la Commission nationale du débat public dans le cadre du droit d'initiative. Alors le rejet de cette demande était légal, c'est ce que reconnaissent les signataires, mais pas inévitable pour autant. Et il rappelle que localement, des projets, enfin pas localement justement, au niveau national, d'autres projets d'incinérateurs à Évry, Créteil, pour ce qui est de la banlieue parisienne, ou Toulouse, eux avaient bénéficié d'un encadrement justement par la Commission nationale du débat public. Et il rappelle aussi que localement, donc sur le territoire de Montpellier Métropole, en 2021, un nouveau stade était en projet de construction et la SA3M et le groupe Nicolin, qui devait justement s'occuper des travaux, avaient saisi la CNDP et que la métropole avait loué l'initiative en trouvant justement que c'était un sujet intéressant et que le projet d'impact significatif pouvait avoir un impact sur l'environnement, donc la métropole se félicitait de faire intervenir la CNDP. Là, visiblement, ils se disent que ce n'est pas la peine, donc la question posée par les opposants est simple. Un stade aurait-il plus d'impact sur l'environnement qu'un incinérateur ? Et sur le fond, donc si ce projet devait aboutir, les inquiétudes portent aussi sur les émissions de polluants que ces fameux CSR, donc c'est le nom de la technologie des incinérateurs, libèrent dans l'atmosphère. On parle de chlorure d'hydrogène, de hydroxyde de fluor, bon je ne suis pas très bon en abréviation chimique, mais on peut parler de cadmium, de mercure, de dioxine, des furanes, des PFAS. Donc, d'ailleurs, les PFAS, on rappelle que ces substances n'ont toujours pas de valeur limite dans la réglementation de 2016. Bref, beaucoup de pollution locale, et on est, je vous le rappelle, quasiment au centre-ville de Montpellier. Enfin, on est à 3 km de la Comédie. Les opposants font également valoir que le schéma régional d'aménagement signale que la région Occitanie dispose déjà de capacités suffisantes en matière d'incinération. Il suffirait pour cela de mutualiser les moyens avec notamment les installations qui sont déjà à Lunel ou à Sète et que ça n'a pas été envisagé. Il rappelle d'ailleurs les propos de Michael Delafosse, le maire de Montpellier, qui déclarait dans le Midi Libre du 10 avril dernier « Dans le traitement des déchets, nous n'avons pas été bons depuis 40 ans ». Et donc après 40 ans d'échecs, une petite année de réflexion supplémentaire semblerait donc au comité la moindre des prudences. Allez, je vous quitte avec une bonne nouvelle, on va dire, en demi-teinte dans ce climat un petit peu de tempête, et notamment en tempête politique. C'est en Gironde que le planning familial était menacé de perdre une énorme part de la subvention. Et finalement, l'Agence régionale de santé va rétablir, enfin en tout cas ne va pas supprimer ces 160 000 euros quand même qui étaient prévus. Donc l'ARS a tenté de supprimer 160 000 euros de subvention, mais a rétro-pédalé, notamment face à la contestation. Ces 160 000 euros, c'était quand même l'intégralité de la subvention versée au planning familial de la Gironde. On ne parlait pas d'une réduction. Et ça fait, pour ce qui est du planning familial de la Gironde, un tiers de son budget annuel, ce qui aurait, à très court terme, entraîné directement sa fermeture, car on ne peut pas faire tourner une structure avec tout d'un coup un tiers de recettes en moins. C'est plus de 70 000 personnes en quelques jours qui ont signé cette fameuse pétition. Donc je vous le disais en cause, le planning familial de la Gironde était menacé de fermeture à court terme avec une décision du 17 juin de cette année de l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui annonçait la suppression totale de la subvention annuelle qui lui était accordée. C'était exactement 32% de ses ressources, donc je vous le rappelle 160 000 euros. La conséquence immédiate aurait été 4 postes supprimés sur les 7,5 équivalents temps plein qu'embauche l'association. Et puis ça aurait été le début de la liquidation pure et simple de cette structure qui existe pourtant depuis 60 ans. Le motif invoqué par l'Agence régionale de santé, les actions du planning qui sont jugées pas assez probantes. Un discours visiblement réactionnaire qui cherche à justifier l'austérité derrière lequel se cache une attaque directe contre, vous le savez, les droits des femmes, des jeunes et des minorités de genre. D'ailleurs, dès 2024, l'ARS expliquait que c'était à l'éducation nationale de prendre en charge les interventions d'éducation à la sexualité et à la vie affective, les fameuses EVARS dont on parle régulièrement ici, pour les établissements scolaires, donc une manière d'écarter le planning familial des oreilles des plus jeunes. Une manœuvre explicite pour noyer le poisson sur les responsables. Et la conséquence était de ne même plus pouvoir donc assurer cette mission élémentaire de prévention. L'article là qui a été écrit sur le site Révolution Permanente rappelle le rôle central du planning familial, qui ne devrait pourtant plus être approuvé. En 2025, en Gironde, c'était 2124 personnes accueillies, 972 élèves qui ont bénéficié d'actions de sensibilisation, 24 communes du département qui bénéficiaient d'une présence locale. C'est donc cette structure-là, ancrée dans le quotidien de milliers de personnes, que l'ARS tentait de liquider. Ce n'est pas isolé, je vous en parle régulièrement. Notamment à Montpellier, le planning familial de l'Hérault fait face à un trou budgétaire de 120 000 euros. D'ailleurs, ils font toujours appel à votre générosité. C'est la mairie, toujours de Michael Delafosse, qui ne verse plus que 7 000 euros. Pareil pour le Lot, où le planning familial du Lot a subi dès l'été dernier de plein fouet des coupes budgétaires, ce qui a précarisé déjà en premier lieu ses salariés. Mais d'autres structures du secteur social ou de la santé communautaire sont aussi visées. On peut parler l'Utopia ou le centre Human Santé. Eux subissent aussi des menaces similaires à Montpellier. Bref, une dynamique nationale d'austérité qui va frapper méthodiquement les associations qui accompagnent les plus précaires. Et quant à l'argument donc, de ce fameux manque de résultats probants, Il faut le dénoncer pour ce que c'est, dit l'article, soit une idéologie managériale appliquée à l'écoute des victimes de violences et à la détresse humaine. Depuis quand, en effet, l'accompagnement de personnes en souffrance doit-il produire des indicateurs statistiques de rentabilité pour mériter un financement ? Bref, la bonne nouvelle, c'est quand même cette mobilisation, hein, donc que face à cette annonce de l'ARS, la riposte a été rapide et immédiate. En à peine une semaine, plus de 70 000 personnes signaient cette pétition. Donc ça fait des dizaines de signataires par minute. Le planning a appelé également un rassemblement devant l'ARS aujourd'hui, le jeudi 25 juin. Et donc c'est cette date fatidique qui a fait qu'ils viennent d'annoncer que finalement la subvention serait maintenue. Mais le rassemblement, lui, aura quand même lieu, histoire de maintenir un bon rapport de force. La mobilisation à contre l'État a reculé. Hein. C'est notamment après que la députée insoumise Mathilde Feld a posé la question au gouvernement qu'Aurore Berger a été forcée d'affirmer publiquement qu'il n'y aurait pas un euro de baisse dans les plannings familiaux de France. Un recul, on le rappelle, arraché par la pression populaire qui n'a pas été un cadeau. Cette promesse du gouvernement, en tout cas, ne vaudra que si le rapport de force se maintient. Et rappelle encore cet article, c'est le même gouvernement qui continue de multiplier les coupes budgétaires d'une main et des coûts de communication de l'autre. D'ailleurs, l'ARS dépend du gouvernement, hein, donc il était au courant que l'Agence régionale de santé annoncerait cette suppression, et pendant des semaines, ils n'ont pas bronché. La vigilance s'impose donc, la mobilisation doit continuer. Pour ce qui est de cet argent, l'État prétendait ne pas avoir ces fameux 160 000 euros pour la santé sexuelle, donc autour de Bordeaux. Le budget des armées, lui, doit encore doubler. N'est pas en centaines de milliers d'euros. Ce contraste peut résumer à lui seul les priorités réelles, hein, du gouvernement. L'argent existe, mais il va plutôt à l'industrie de guerre. Voilà toujours les commentaires de Révolution Permanente sur ce qui se passe contre le planning familial. Il rappelle que c'est notamment un acteur historique de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, mais aussi aux questions de transition de genre ou à l'éducation à la sexualité. Un acteur historique donc du mouvement féministe. D'ailleurs, Annie Carraretto, la coprésidente du planning familial, expliquait dans les journaux de France 3 que pour remplir une telle mission de service public dans le plus grand département de France, qui est la Gironde, il faut forcément des moyens. Et elle rappelle qu'en moyenne, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents, qu'une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son compagnon, sans compter les suicides associés, et enfin qu'un viol ou tentative de viol se produit en France toutes les 2 minutes 30. Voilà, en Gironde, d'autres associations seraient en ligne de mire pour une fin de subvention possible de l'ARS. Sont du coup sur la sellette et en tout cas surveillent tout cela de très près le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, ou encore la Maison d'Ella. Donc voilà, ils invitent, c'est un peu loin d'ici, mais on ne sait jamais. Si vous nous écoutez en Gironde, il y a toujours rassemblement, en tout cas aujourd'hui, devant l'ARS pour soutenir le planning familial de la Gironde.
Seul un esprit discipliné peut voir la réalité, Winston. Cela exige un acte d'autodestruction, un effort de la volonté. Vous rappelez-vous avoir noté dans votre journal « La liberté, c'est la liberté de... »
C'est un mot tout anti-fasciste.
Un fasciste de merde. Un fasciste de merde.
C'est un mot tout anti-fasciste.
Allez les amis, il fait très chaud dans ce studio, je perds un peu mes moyens face au bouton. On se quitte quand même en musique, mais on reste dans la thématique avec une petite pépite que Monsieur Dick Hanegaard a partagée ce matin sur ses réseaux sociaux. Bon, je le remercie. Le morceau s'appelle « Sécheresse » et c'était sur un album qui s'appelle « Anticyclone », enregistré justement pendant la canicule de 1976, quelque part en Haute-Saône. Un album autoproduit avec les musiciens d'Albert Marker et le premier studio mobile en camionnette de Claude Zaakian. Voilà, on est sur un groove bien brésilien pour ses fortes chaleurs. Et on rappelle qu'en 1976, donc canicule historique, il faisait quand même 4 degrés de moins environ, même si c'était des énormes dégâts qui s'en sont suivis à cause de la sécheresse, donc du manque d'eau, notamment dans la partie nord du pays. Allez, on finit donc avec Dick Hanegaard et le morceau Sécheresse. Et ça part normalement. Voilà.
Nom de Dieu, c'est qu'il n'y a aucun nuage dans ce ciel de bleu, un pur paysage de rien que du soleil et de sécheresse. Aride gorge aride et vide. J'ai le bide à vide d'eau fraîche. Le débit diminue dans toutes les rivières à nu sud de leur port de vase sèche. Les lacs et les nappes d'eau à sec, anticyclone de haute zone, un temps d'obsèque. L'été, dromadaire exténué, cimetière de l'été. Une sécheresse, aride sécheresse.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.